Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le variant Omicron, risque élevé au niveau mondial. Nouvelle alerte de l'Organisation mondiale de la santé. En France, le conseil scientifique s'inquiète lui aussi et appelle plus que jamais à se faire vacciner. Alors que des frontières se ferment à l'approche de Noël, quelles règles en cas d'annulation de vol ou de séjour? Nous verrons cela. Peut-on recoller le verre cassé à l'époque Trump? Les négociations sur le nucléaire iranien reprennent cet après-midi en Autriche. Les macronistes abordent-ils l'élection présidentielle unie? Photo de famille ce soir, Édouard Philippe, François Bayrou et Richard Ferrand, côte à côte. Dans ce journal encore, hommage à celui qui a fait entrer le rap dans le monde du luxe, le créateur de mode Virgil Abloh, mort ce week-end. Nous irons sur le quai Jacques Chirac, inauguré ce matin à Paris. Nous verrons qu'à l'approche de Noël, là encore, les ostréiculteurs manquent de main-d'œuvre. Et puis à la veille de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, sur France Inter aujourd'hui, étape dans les lieux qui ont marqué sa vie. Tout à l'heure, le château de Milan, dans Dordogne, où elle a vécu sa vie d'artiste, de mère et de résistante.
On n'imagine pas un instant que la grande star internationale Joséphine Baker, qui paraît être une fille frivole et légère, puisse cacher des armes et être dans la résistance.
Reportage Sébastien Baer, Joséphine, première femme noire au Panthéon, et il y a un siècle exactement, le premier prix Goncourt pour un écrivain noir. Ce sera le vif de l'histoire, juste avant 14h. Avant cela, à 13h30, un grand marin sur France Inter, Franck Camas, vient de remporter la Transat Jacques Vabre. Il s'apprête à tenter le record du Tour du Monde en équipage. Est-ce qu'on peut faire le tour du globe à la voile en moins de 40 jours? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour dialoguer avec Franck Camas. Et avec un peu de chance, son comparse Charles Caudrelier, actuellement en mer, sera aussi avec nous. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le variant Omicron présente un risque élevé au niveau mondial. Oui, il y a encore beaucoup d'incertitudes à son sujet, mais c'est l'Organisation mondiale de la santé qui alerte ces dernières heures. Sujet d'inquiétude, les nombreuses mutations que présente ce variant. Le risque est qu'il se transmette plus facilement ou échappe à la réponse immunitaire après une vaccination notamment. Depuis vendredi et l'annonce de l'apparition de ce variant, les scientifiques demandent à la fois du temps pour l'étudier plus en détail, mais appellent aussi à la vigilance. L'OMS, donc, dans une note technique cette nuit et ce matin en France, le conseil scientifique qui tenait une conférence de presse, pas de confirmation que des personnes aient été diagnostiquées en France à ce stade. C'est très probablement une question d'heure, reconnaît le ministre de la Santé. 8 cas possibles ont été détectés. Bonjour Hélène Chevalier.
Bonjour.
Que dit le conseil scientifique?
Eh bien, il dit prudence, mais pas de panique. Ce qui inquiète les membres, ce sont les mutations importantes, 32 au total, sur la protéine Spike, clé d'entrée du virus dans nos cellules. Au-delà de potentiellement le rendre plus contagieux, ces mutations touchent également une région impliquée dans la réponse immunitaire, explique le professeur en virologie Bruno Lina.
Lorsqu'on a une combinaison de mutations qui surviennent, comme on l'observe dans le virus Omicron, sur une zone aussi importante en termes de réponse immunitaire, eh bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une partie des anticorps que l'on avait avant qui marchent moins bien. Mais ça n'est jamais une réaction blanche et noire, hein. C'est-à-dire qu'on a une perte d'affinité, mais ça ne veut pas dire qu'on a une perte totale de l'activité de ces anticorps.
Et il faudra plusieurs semaines pour déterminer en laboratoire les effets d'Omicron sur l'immunité, voire au moins 2 mois en population réelle, car une baisse de l'efficacité des anticorps ne signifie pas forcément que la population n'est plus protégée. Le professeur Arnaud Fontanet, également membre du conseil scientifique, relativise par ailleurs sur le contexte en Afrique du Sud. Il est bien différent de celui en Europe, qui fait face à une 5e vague avec un variant Delta très actif.
Le variant Omicron est apparu en Afrique du Sud à un moment où le Delta était très calme et dans une population en Afrique du Sud qui était relativement peu vaccinée. On estime à 28% la couverture vaccinale avec une proportion de vaccin Johnson une dose qui est assez importante.
Et ce n'est là encore que le temps qui permettra de voir si, comme en Afrique du Sud, le variant Omicron prend le dessus sur Delta. En attendant, variant Delta, variant Omicron, même combat pour le conseil scientifique. Il faut qu'un maximum de personnes reçoivent leur 3e dose, et plus particulièrement les plus de 50 ans et les plus fragiles.
Une autre chose, Hélène, sur le nombre de cas étudiés en France.
Oui, la Direction Générale de la Santé parle actuellement de 8 cas suspects, car ils reviennent d'Afrique australe ces 14 derniers jours et que le criblage de leurs tests est suspect. Mais 3000 échantillons également suspects et réalisés la semaine dernière sont également en cours de séquençage. Ça peut correspondre à plein de variants sans importance, mais quand même, dans le doute, ils préfèrent vérifier.
Et faut-il y voir un indice de la contagiosité de ce variant Omicron? L'Afrique du Sud, premier pays où il a été repéré, redoute de passer d'ici à la fin de la semaine les 10 000 nouveaux cas quotidiens. On était à moins de 3 000 hier. Après d'autres pays européens, le Portugal, l'Autriche, l'Écosse viennent de détecter des premiers cas de Covid vers version Omicron. Israël s'est fermé hier à tout voyageur étranger. Au Japon, ce sera demain. En Australie, la réouverture des frontières est suspendue. La France, entre autres, n'accueille plus jusqu'à nouvel ordre les voyageurs en provenance d'Afrique australe. On ne va pas fermer les frontières à l'intérieur de l'Europe, affirme le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune ce matin sur France Inter. Mais Omicron vient s'ajouter à la nouvelle vague de variant Delta pour faire planer une menace sur les vacances de Noël, surtout si vous devez voyager. L'organisation mondiale spécialisée dans le voyage estime que les pertes du secteur cette année à 2 milliards de dollars, pertes équivalentes à celles de l'année dernière. Et les entreprises de voyage commencent à enregistrer des annulations sur les destinations dites d'hiver. 1 millier de personnes ont été rapatriées ces derniers jours en France depuis le Maroc, où les vols directs ont été suspendus. Double peine pour les Antilles, crise sanitaire et sociale. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Bruno, bonjour
à tous. Alors Philippe, pour ceux qui ont prévu de partir à Noël ou d'ici là, quelles sont les règles? Si mon séjour est annulé, que se passe-t-il?
Alors, on va tout d'abord parler des voyages à forfait, séjour plus avion. Si vous n'êtes pas encore parti et que les liaisons aériennes sont suspendues, c'est le cas par exemple du Maroc, vous le disiez, eh bien, la règle est simple, votre agence de voyage doit vous rembourser dans les 14 jours. Attention, l'ordonnance de mars 2020 qui donnait la possibilité aux professionnels du tourisme de proposer à leurs clients un avoir valable 18 mois, puis un remboursement au-delà des 18 mois, n'est plus valable. Donc si une agence physique ou en ligne vous propose un avoir, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Pour ce qui est des voyageurs qui sont déjà sur place, l'agence ou le tour opérateur doit vous trouver, bien évidemment, une solution pour vous rapatrier avec les vols disponibles. Alors ça peut être très très long. Et avant cela, elle doit vous prendre en charge pendant 3 jours. Par contre, les jours supplémentaires seront à votre charge, sauf si vous avez souscrit une assurance Covid qui peut prendre en charge tout ou partie des frais supplémentaires. Alors là, ce sont les cas de figure, on va dire, les plus simples, parce que vous avez un intermédiaire unique, qui est l'agence de voyage. En revanche, si vous avez organisé votre voyage vous-même, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour obtenir un remboursement. Par exemple, sur les plateformes comme Airbnb ou Abritel, les propriétaires n'acceptent pas forcément de remboursement, mais généralement, c'est indiqué sur l'annonce.
Alors voilà pour les séjours. Si mon billet d'avion maintenant est annulé, que se passe-t-il?
Eh bien, si une destination est fermée, c'est toujours le cas du Maroc ou d'Israël par exemple, eh bien c'est simple, la compagnie doit vous rembourser. Alors attention, certaines compagnies vont tout faire pour ne pas vous rembourser en vous proposant des avoirs, des reports. Un conseil, n'annulez jamais votre billet vous-même. Attendez que la compagnie s'en charge. Sinon, ça risque de vous coûter cher. Il n'y aura peut-être pas d'annulation, pas de remboursement ou alors des gros frais d'annulation. Par contre, si vous annulez votre voyage pour la Guadeloupe et la Martinique, a priori, il n'y a pas de problème. Les 3 compagnies qui desservent les Antilles, à savoir Air France, Air Caraïbes et Corsair, proposent toutes des reports sans frais ou des remboursements jusqu'en juin 2022.
Merci Philippe Lefebvre. Pour l'instant, c'est donc le variant Delta qui est ultra majoritaire en France, ce qui suffit à inquiéter. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
L'Institut Pasteur vient de présenter ses dernières modélisations qui n'incluent pas un éventuel effet Omicron. Elles sont tout de même riches d'enseignements.
D'abord, il faut vacciner largement. Bien sûr, les prioritaires restent les personnes âgées et à risque, ainsi que le personnel soignant. Mais plus large sera le public éligible à la 3e dose, plus fort sera l'impact, précise Simon Cauchemez, le responsable de ces modélisation.
On trouve en effet que si on les distribue à la population adulte, donc des plus de 18 ans, on peut s'attendre à des réductions des pics d'hospitalisation de l'ordre de 44% dans nos scénarios de référence, alors que si on ne ciblait que les personnes les plus âgées, on aurait des réductions de seulement 20%.
Les simulations ont montré que c'est 5 mois après la 2e dose que l'efficacité du rappel est la meilleure. Si on le fait à 6 mois, on réduit les hospitalisations de 33%. Si on le fait à 5 mois, la réduction est de 44%. Dernier enseignement, relancer le strict respect des gestes barrières a aussi un impact. Simon Cauchemez.
Les comportements qu'on va avoir dans les semaines qui viennent vont vraiment jouer un rôle important. Et en fait, de petites réductions de l'ordre de 10-20% des taux de transmission peuvent avoir un impact très important. Et ça signifie que si on est tous capables dans les semaines qui viennent de respecter un peu plus les gestes barrières, le port du masque, augmenter le télétravail, réduire un peu les contacts, ça peut vraiment changer la donne pour définir la taille de cette 5e vague.
Vous l'avez dit, ces calculs ont été faits dans un contexte d'hégémonie du variant Delta. Si Omicron devait le supplanter, il faudrait refaire ces calculs car à chaque virus, sa contagiosité, sa capacité à entraîner ou non des formes graves et à échapper ou pas au système immunitaire.
Cette semaine entre en vigueur le nouveau protocole à l'école et les quelques modifications en entreprise. À l'école, s'il y a un cas positif, seuls les autres élèves testés positifs sont mis à l'écart. Les autres peuvent rester. En entreprise, 2 mètres de distance lors des repas, aération des locaux, 5 minutes toutes les heures, masque obligatoire dès qu'on n'est pas seul dans un local fermé. concernés. Pas de nouvelles règles sur le télétravail. Les employeurs sont invités à le favoriser, cela dit. Et puis, bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Il est un lieu collectif où le protocole n'est pas très clair, ce sont les crèches.
Oui, ce protocole, il est défini par le ministère de la Santé. Certaines structures peuvent le rendre plus contraignant, mais pas moins. Chez Babylou, 450 crèches en France, en cas d'enfant positif, les règles sont les suivantes, détaille Fadia Matarejimbaud. Elle est la médecin référente du groupe.
On considère que tous les enfants qui sont dans l'espace ou qui vont côtoyer cet enfant sont cas contact. Donc, ils se retrouvent automatiquement en isolement pour une durée de 7 jours et il revient à condition qu'il ne soit pas symptomatique. On invite plus les parents à faire tester les enfants qui sont cas contact. Mais par contre, on n'a pas de raccourcissement du temps d'isolement, même s'ils étaient négatifs au premier test.
Aujourd'hui, une dizaine d'espaces sur 450 crèches sont fermés. C'est très peu, en grande partie parce que malgré l'arrivée des tests salivaires pour les tout-petits, on ne leur enfonce pas un écouvillon dans le nez, on privilégie la voie buccale. Peu de parents testent les bébés, confirme Camélia, maman d'une petite fille de 16 mois.
Ils sont assez souvent malades, ils ont assez souvent des fièvres. Donc, c'est pas quelque chose, voilà, qu'on a tendance à faire et les tests salivaires sont pas forcément disponibles partout. Moi, personnellement, je connais aucun parent qui a déjà fait tester son enfant de moins de 3 ans dans notre crèche.
Ce qui veut dire que le virus circule probablement beaucoup plus qu'on ne le croit dans les sections des tout-petits, mais que personne ne le sait.
Merci Faustine Calmel. Le jour viendra où la vaccination obligatoire s'imposera, estime le président du Modem François Bayrou. En Guadeloupe, où l'obligation vaccinale pour les soignants et pompiers est à l'origine de la crise sociale qui secoue le territoire, le ministre des Outre-mer est arrivé hier. Il doit rencontrer dans les heures à venir des représentants de l'intersyndicale, des élus locaux, des chefs d'entreprise. Le gouvernement se dit prêt à évoquer la question de plus d'autonomie pour la Guadeloupe. Sébastien Lecornu ira également en Martinique avant un retour prévu à ce stade mercredi à Paris. À la veille de l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker, artiste, militante des droits de l'homme, résistante, sur France Inter aujourd'hui, nous parcourons les lieux qui ont marqué sa vie. Les États-Unis et Monaco ce soir, et dans ce 13-14, les Milandes, ce château de Dordogne, où elle a vécu une trentaine d'années jusqu'à la fin des années 60. Joséphine Baker l'avait proclamée capitale de la fraternité, elle qui avait connu le racisme dans son Amérique natale. Elle y vivait avec 12 enfants d'origine différente qu'elle avait adoptés. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Sébastien, vous êtes allé sur les traces de l'artiste aux Milandes.
Oui, les Milandes, le petit paradis de Joséphine Baker, un château de 24 pièces qui surplombe la Dordogne, flanqué de 2 tours avec un donjon et surtout une salle de bain extravagante recouverte de feuilles d'or. C'est ici, effectivement, que l'artiste élève les 12 enfants qu'elle a adoptés dans le monde entier.
Akio, qui est coréen, Jano, le japonais. Ensuite, on a Jari, le finlandais, Louis, colombien.
Angélique Delabarre, que vous entendez, est la propriétaire du château ici, depuis 2001.
Donc elle disait, regardez, ma tribu arc-en-ciel, toutes les couleurs, toutes les religions, toutes les nationalités, et ils s'entendent, c'est une vraie famille.
La fraternité universelle, c'est l'idéal défendu par Joséphine Baker. Et évidemment, au départ, Bruno, vous vous en doutez, la famille ne va pas passer inaperçue.
Écoutons ce qu'en dit à ce sujet Akio, qui a 69 ans aujourd'hui, c'est l'aîné de la tribu arc-en-ciel.
On pouvait paraître comme des bêtes curieuses à l'époque, puisque c'était pas commun d'avoir une famille multiraciale et multiculturelle, on va dire. Après, avec le temps, ceci, ça s'est estompé. Jamais j'ai ressenti une forme de rejet. On se fondait dans le paysage.
Pour les enfants, les siens et ceux des visiteurs, rien n'est trop beau. Joséphine Baker crée un parc d'attractions en contrebas du domaine avec une volière, une guinguette, un cabaret, un mini-golf, des courses de lévrier et même une piscine en forme de J. Je vous laisse deviner pourquoi.
Question de prénom, j'imagine. Et dans ce lieu, l'âme de résistante de Joséphine Baker va également s'exprimer, Sébastien, une fois encore.
Oui, dans son château, Joséphine Baker n'oublie pas son combat contre les nazis. Dans ce dédale de pièces, la cave, les tours abritent des secrets.
On n'imagine pas un instant que la grande star internationale Joséphine Baker, qui paraît être une fille frivole et légère, puisse cacher des armes et être dans la résistance. À aucun moment, personne ne se doute de son action dans la résistance.
En résumé, Sébastien, au Milandes, Joséphine Baker mène donc à la fois une vie de mère, de résistante, mais aussi d'artiste, bien sûr.
C'est exactement ça. Et d'après Akio, le fils aîné, ce sont même les plus belles années de sa vie.
Les Milandes, c'est toute sa vie, son rêve. C'était notre Madeleine de Proust, on va dire. Pas de soucis, La vie est belle.
La vie est belle jusqu'en 1969, abusée par les créanciers, sans doute trop généreuse. Joséphine Baker est ruinée, le rêve prend fin, le domaine est vendu. Transformé aujourd'hui en lieu de mémoire, dans le Périgord, les gens l'appellent le mini-panthéon de Joséphine Baker.
L'Émile André, si Sébastien Baer et l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, cérémonie demain, nous en parlerons longuement sur France Inter. Première femme noire à y entrer. Et dans ce 13-14, tout à l'heure, alors Jean Lebrun, la semaine dernière, a consacré l'essentiel de son vif de l'histoire aux femmes du Panthéon. Tout à l'heure, autre parallèle, la première fois que le Goncourt sacrait un écrivain noir, c'était il y a un siècle tout juste, il s'appelait René Maran. À Paris, à la salle de la Mutualité, à 18h30 tout à l'heure, il sera question d'une maison commune, rien à voir avec le château de Joséphine Baker. C'est le mouvement politique qui réunit les différentes composantes de la majorité, le MoDem de François Bayrou, Horizon d'Édouard Philippe, le parti Agir aussi, Territoire de Progrès, plus à gauche, bref, toutes les chapelles de la Macronie. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Le mouvement s'appelle Ensemble Citoyens. Est-ce que la majorité est réellement rassemblée? C'est une des questions avant cette soirée. Une autre, c'est celle de la parité à la tête de cette maison commune.
Quatre chefs, tous des hommes, Édouard Philippe, François Bayrou, Richard Ferrand et Jean Castex. Les organisateurs tentent bien de déminer en assurant que la parité sera respectée sur scène. 5 hommes, 5 femmes. Ça ne suffit pas à calmer l'agacement, par exemple, de la députée Caroline Janvier qui tweete ce midi « Quelle chance, on a le droit d'être sur la photo, je file chez le coiffeur ». Vous voyez que c'est le premier écueil de cette maison commune. L'autre étant de savoir si elle suffira à éviter les habituelles prises de bec au moment des législatives. Certes, il y a bien un pacte de non-agression, avec en théorie un candidat unique par circonscription, sauf que on ne crée pas notre parti pour se contenter des restes, prévient un lieutenant d'Édouard Philippe, à qui un marcheur répond « On défendra chèrement notre peau, ce n'est pas gagné ». Donc, reste que, et c'est déjà ça, chacun accepte pour le moment de mettre ambition personnelle et rivalité sous le tapis. En clair, les leaders de la majorité, Édouard Philippe en tête, sont neutralisés le temps de la campagne. Et c'est le coup de génie d'Emmanuel Macron, s'amuse un proche du président. Il laisse les chapeaux à plumes faire joujou entre eux pendant que lui fait de la politique.
Chez les LR, le vote des militants à jour de cotisation pour désigner le candidat de la droite à la présidentielle, ça commence demain. Les candidats jettent leur dernier feu. À propos des migrants qui veulent aller en Angleterre, Xavier Bertrand plaide pour qu'on les laisse prendre le ferry pour établir un rapport de force avec Londres. Ce n'est pas sérieux, répond le secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune sur France Inter. Quant à Valérie Pécresse, après le doigt d'honneur d'Éric Zemmour à une manifestante ce week-end à Marseille, elle estime que la pré-candidature du polémiste vire au flop. Quant à l'ancien candidat de la droite, François Fillon, il entendra cet après-midi le réquisitoire dans son procès en appel dans l'affaire des emplois fictifs. Il avait été condamné en première instance à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Peut-on repasser à un cercle vertueux avec l'Iran? En 2015, le pays avait signé un accord avec Grande-Bretagne, France, Allemagne, États-Unis, Russie, Chine, allègement des sanctions économiques contre réduction du programme nucléaire. En 2018, Donald Trump avait sorti les États-Unis de cet accord. Depuis, l'Iran a repris l'enrichissement, ravivant les craintes que le pays des mollahs ne se dote de la bombe atomique. Pays qui plus est dirigé depuis juin par un président ultra-conservateur, Ebrahim Raisi. Les négociations reprennent en début d'après-midi à Vienne. Il y aura en Autriche, pays où siège l'Agence internationale de l'énergie atomique, des représentants de presque tous les pays signataires de 2015. Les États-Unis suivent de manière indirecte. Et un pays regardera les discussions de près, c'est le grand ennemi de l'Iran ultra-conservateur, Israël, Frédéric Mettezo.
De 2016 à 2020, l'alignement a été parfait entre les États-Unis de Donald Trump et Israël de Benjamin Netanyahou. Et pour Raz Zimet, professeur d'université et spécialiste de l'Iran à l'INSS de Tel Aviv, les deux pays se sont trompés sur le dossier iranien.
Ça a été une erreur stratégique. L'une des conséquences de la décision de Trump est que l'Iran a fait des progrès significatifs dans son programme. Sortir de l'accord n'était pas une décision américaine. Elle a été certainement influencée par le gouvernement israélien.
Les sabotages et les assassinats ciblés menés par Israël en Iran ont été contre-productifs, nous confie aussi un diplomate européen qui suit de très près le dossier. Mais Raz Zimet estime qu'il faudra peut-être en passer par la force.
Toutes les options devraient être sur la table, y compris l'option militaire. Les États-Unis ne semblent pas vouloir recourir à la force armée, à moins que l'Iran n'accède à l'arme nucléaire. Pour Israël, on ne peut pas attendre d'en être là, car soit on ne le saura pas, soit il sera trop tard.
Ici, la plupart des experts pensent que la négociation d'aujourd'hui ne donnera rien dans l'immédiat. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Un effet du variant Omicron, le prix du pétrole remonte à nouveau plus 5% entre New York et Londres ces dernières heures. En France, cette réforme aura-t-elle le temps d'être définitivement adoptée avant la fin du quinquennat? Ce n'est pas sûr, en tout cas. Les députés examinent à partir de cet après-midi la proposition de loi qui permet d'allonger le délai d'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines. De nombreuses femmes se voient contraintes d'aller à l'étranger, faute d'avoir pu respecter le délai de 12 semaines actuellement en vigueur. Et en tout, on estime qu'elles sont entre 3 et 5 000 chaque année à traverser la frontière pour mettre un terme à leur grossesse ailleurs qu'en France. Beaucoup partent aux Pays-Bas ou encore en Espagne, où la législation est plus souple. Alice Cachaner, vous avez recueilli le témoignage de deux femmes dans cette situation.
Pour Anne-Laure, c'est un accident de pilule. Pour Adèle, une situation de violence conjugale. Dans les deux cas, inconcevable de poursuivre cette grossesse. Trop tard pour une IVG en France, alors direction l'Espagne, où des cliniques privées permettent d'avorter jusqu'à 22 semaines.
Je pense qu'il y avait 90% de Françaises dans la salle.
La situation est déstabilisante, confesse Anne-Laure. Elle a l'impression que les avortements se font à la chaîne.
On suit, on nous dit rien, on y dit voilà, vous mettez là, vous changez, vous attendez votre tour. On est un peu les unes à côté des autres quand même, c'est des genres de petits box, il n'y a pas d'intimité. Le climat est un peu stressant.
Un sentiment partagé par Adèle, qui ne comprend pas alors ce que disent les médecins espagnols.
Les soignants qui se sont occupés de moi ne parlaient pas français, ne parlaient quasiment pas anglais. Donc c'était très difficile de pouvoir communiquer quand même sur ses émotions, sur avoir besoin d'être rassuré, de pouvoir mettre en mots, de savoir même pour les gestes chirurgicaux tout ce qui va être fait. Ça participe à la solitude qu'on ressent à ce moment-là.
Il y a aussi la question financière. Plus la grossesse est avancée, plus le coût de l'opération est élevé.
Moi, j'ai à peu près chiffré ça à 3000 euros parce qu'il fallait que je sois accompagnée. Donc, on était deux à prendre l'avion et que bon, on n'a pas pu choisir nos tarifs. Ça s'est fait très rapidement. Plus le logement, plus l'acte en lui-même.
C'est des coûts énormes. Moi, c'est presque un SMIC que j'ai donné pas loin. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se le permettre à cause de ça.
Aujourd'hui encore, les deux femmes gardent un souvenir douloureux de cette expérience.
C'est un souvenir, oui, qui restera gravé dans ma tête, dans mon psychisme, dans ma chair, c'est sûr. Mais je n'ai jamais regretté.
Ça a été un moment difficile quand même, il faut le dire. Il a fallu du temps pour le digérer. Ça aurait pu être tellement plus simple ça avait pu être fait en France. Parce qu'encore une fois, je pense qu'un avortement, c'est jamais un moment facile à passer.
Anne-Laure et Adèle espèrent qu'une évolution de la loi sur l'IVG permettra d'éviter à d'autres femmes d'aller avorter loin de chez elles.
Ces Françaises qui racontent leur IVG en Espagne, il y avait 90% de Françaises dans la salle d'attente. Vous trouverez d'autres éléments sur franceinter.fr. Recruter des jeunes de peau noire, asiatique, maghrébin ou originaire des quartiers populaires, ce n'est pas seulement favoriser la diversité, c'est aussi bon pour l'économie. Le premier sommet de l'inclusion économique est organisé aujourd'hui à Bercy et les études de nouvelles sont rendues publiques aujourd'hui, vont dans le même sens. Claire Chaudière, la diversité fait grimper la croissance.
Nouvelle force de travail, baisse des coûts pour la société liée à l'inactivité et pour les plus diplômés, arrivée de profils différents dans les entreprises, permettant de conquérir de nouveaux marchés. L'insertion de tous ces jeunes aujourd'hui sur le carreau représenterait jusqu'à 0,4 point de PIB en plus, martèle l'économiste Jean-Hervé Lorenzi. Il prendra la parole tout à l'heure sur le sujet.
1,5 million de jeunes, on a fait des calculs, on aurait vraisemblablement plusieurs dixièmes de croissance de PIB en plus. C'est absolument majeur. Personne n'a réalisé à quel point c'était un handicap pour la croissance.
Pourtant, la dynamique n'est pas au rendez-vous. Certes, le chômage baisse, mais pas pour tout le monde, regrette Saïd Amouche de la Fondation Mosaïque RH à l'initiative de ce sommet.
Quand on analyse ensuite le chômage des jeunes qui habitent ces quartiers politiques de la ville, eh bien, on voit que ça stagne complètement. Donc, il y a un vrai sujet, est-ce qu'on en fait assez?
Tout un symbole d'ailleurs, les trophées de la diversité décernés par la Fondation ont été abandonnés, dit-il, faute d'un nombre suffisant de vraies initiatives d'entreprise au-delà de simples coups de com.
On n'a pas pu, clairement, ça a été très compliqué d'identifier une dizaine de pratiques. Pourtant, on a fait des enquêtes. On ne peut pas aujourd'hui simplement se contenter d'être dans du déclaratif.
Grandes et moins grandes entreprises qui participent à cet événement doivent aujourd'hui s'engager sur des objectifs chiffrés de recrutement de jeunes issus de quartiers prioritaires.
On parlait de l'approche de Noël tout à l'heure. Les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon rencontrent une difficulté en cette période si importante pour eux. Manque de main-d'œuvre et cela touche tous les bassins ostréicoles. Reportage Stéphanie Scock, France Bleu Gironde.
Sur le port de Gujan, Lucas, jeune stagiaire du lycée de la mer, apprend à trier les huîtres. Cela fait 4 semaines que le jeune homme est confronté au métier d'ostréiculteur. Il avoue, parfois, c'est dur.
Ouais, c'est le froid le plus dur. À longue durée, à voir. C'est pas si dur que ça, ça dépend des fois. Sauf qu'on va la marée, c'est fatigant.
Si fatigant que certains salariés qui débarquent dans le métier jettent l'éponge au bout de quelques jours. Olivier Laban, ostréiculteur.
Le record chez moi, ça a été 45 minutes. La personne s'est dit, c'est pas pour moi. Moi, je pense qu'on a des conditions de travail qui sont tout à fait normales pour ce métier. Il est évident que celui qui ne souhaite pas se mouiller les mains, je le déconseille de venir faire l'ostréiculture. Non, mais je crois qu'on est victime d'une conjoncture un peu particulière où certaines personnes ont imaginé qu'ils pourraient continuer à gagner leur vie en travaillant moins. Moi, j'en suis pas convaincu.
Les ostréiculteurs cherchent des solutions. En 2017, ils ont créé un groupement d'employeurs afin de mutualiser l'embauche de salariés. La directrice Hélène Bienasewski reçoit les candidats potentiels. Le recrutement est compliqué.
Il y a des personnes pour qui ça va pas le faire. Et il y a aussi de très belles surprises, des salariés qu'on peut accompagner sur de la formation, et on l'a connu par le passé, qui finissent par s'installer et ouvrir leur propre exploitation, et on en est très très fiers.
L'ostréiculture est un métier passion, au plus près de la nature, mais c'est un fait, il attire de moins en moins.
4 départements en vigilance orange, 2 pour crues, le Nord et le Pas-de-Calais, 2 pour vigilance aux avalanches, c'est les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques. On retrouve Elodie Calac dans un instant. Il a fait entrer l'univers du rap dans le monde du luxe. Il était aussi l'un des tout premiers créateurs noirs à occuper un poste aussi prestigieux dans la mode. Virgil Abloh, créateur des collections hommes de Louis Vuitton, est mort hier d'un cancer. Il avait 41 ans. Béatrice Duguay avec vous, portrait de cet homme qui avait notamment travaillé pour Kanye West.
Un diplôme de génie civil, un autre en architecture, figurez-vous. Fan de skateboard aussi. Il ouvre une galerie d'art en 2009, qui est aussi une boutique de mode et de design. C'est là que Kanye West donc le repère. Et il en fait son directeur artistique. Virgil Abloh conseille le rappeur pour des mises en scène de concerts et puis des pochettes de disques. Il sera son DJ aussi dans les soirées mode parisiennes. 3 ans plus tard, il lance sa première marque Pyrex Vision, qui fait long feu. Et puis il crée Off-White, marque de luxe inspirée de la rue, des baskets, des sweatshirts, du noir, du blanc. Il évolue vers des tenues plus travaillées, plus couture. En 2015, il est finaliste du prix LVMH. La marque prestigieuse l'embauche carrément en 2018 comme directeur artistique des collections hommes de Louis Vuitton. Il attire les jeunes en mêlant le luxe avec les codes de la rue, parterre de stars de la scène hip-hop pour son premier défilé. Il conçoit aussi bien des costumes que des suites, des maillots de sport, des vestes en fourrure, des manteaux classiques, aussi bien que des coupe-vent, du blanc aux couleurs fluo, matière, volume, coupe sophistiquée, diversité, jeunesse. C'était la mode de Virgil Abloh, portée par des mannequins de couleur. Il aura donné un sacré coup de fouet à la mode masculine.
Virgil Abloh en 5 marques iconiques, c'est sur franceinter.fr. Lui est mort il y a plus de 2 ans. Il aurait aujourd'hui 89 ans. L'ancien président de la République, Jacques Chirac, a déjà un musée à son nom à Paris, la ville dont il a été maire pendant plus de 18 ans. Il aura désormais une artère à son nom à Paris. Bonjour Marie Maheu.
Bonjour.
Vous êtes en direct du quai Jacques Chirac, qui relie 2 lieux comme 2 héritages de la politique de l'ancien président.
Eh oui, car ce nouveau quai Jacques Chirac part du musée du quai Branly, ce musée des arts premiers créé sous l'impulsion de l'ancien président. Et il court jusqu'à la place des martyrs juifs du Vélodrome d'hiver où en juillet 95, Jacques Chirac avait reconnu pour la première fois la responsabilité de la France dans la déportation des juifs. C'est le plus juste des portraits, a témoigné sa fille Claude Chirac, très touchée par cet hommage.
C'est beaucoup d'émotion, c'est beaucoup de fierté. C'est la ville où il a construit sa vie, c'est la ville où il a fondé aussi sa famille. Et c'est surtout la ville dont il a été maire pendant 18 ans. Et c'est une ville avec laquelle il avait une relation très particulière, très charnelle. Et en tout cas, lui aimait beaucoup Paris et les Parisiens.
Alors Bernadette Chirac n'était pas présente aujourd'hui à cause de sa santé fragile. Mais de nombreux proches de Jacques Chirac étaient là, comme Lynn Renault, Marie-Yvonne et François Pinault. Des proches politiques également, Alain Juppé, Rachida Dati, Jean-Pierre Raffarin, entre autres. Et Anne Hidalgo, maire de Paris, qui présidait la cérémonie.
C'est quelqu'un avec lequel j'ai toujours eu plaisir à échanger parce qu'il avait ce goût, bien sûr, du combat politique, mais aussi de la démocratie, de la République.
Et des valeurs dont s'inspirent aujourd'hui des politiques de droite comme de gauche.
Marie Maheu en direct du quai Jacques Chirac avec Christophe Papon pour France Inter à Paris. Dans un instant, la météo, puis l'invité du 13-14, Franck Camas.